European Common Time. Les sorties de l'appareil sont marquées sur votre écran en haut à droite par une croix ou un bouton rouge. The exits are written on your screen on the upper right corner with a cross or a red button. La température au sol est de 28 degrés Celsius. The temperature is 28 Celsius. Nous vous remercions d'avoir choisi notre compagnie. Merci de boucler votre ceinture pendant l'atterrissage. Dans l'attente de nos émissions normales, l'hymne officiel vous est interprété par Fred Rabol, nom des Bavarisches Kestrosch. The official soundtrack is interpreted by Frederick Rabold. Relax and sit down, waiting for noon exactly. Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 9 juin 2007 et il est exactement midi dans votre poste.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer,
maintenant,
le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD, roast beef et TV.
Suivi de...
Ça c'est du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie.
Et ensuite...
À 15h du rock avec le potager, 17h Big Bang, 18h vie d'ordure, c'est du punk, 19h Happy Hour, les petites olives dans les cocktails, 20h la CTO Experience, 21h39 Love, et nous sommes en direct jusqu'à 5h du matin. Bonjour Thomas.
Salut Xavier, salut du sport.
Bonjour Duce.
Hey, tu viens de faire ton jogging?
Ouais, bah super alors. Je vois que Duce a dû foncer parce que je crois qu'après il repart en catastrophe pour le festival de la télévision à Monte Carlo. Non, pas du
non,
tout
même pas.
Ah bon? Bah, c'est ça, fais-moi croire que toi non plus t'es même pas allé à Cannes.
Non.
Bon, je tiens à vous signaler pour ceux qui n'ont pas la couleur que Thomas s'appellera désormais pendant tout le long de cette émission Albator. En guise d'introduction, Stay Tight Wait, Spanish Shirts, extrait de leur album XL, qui était sorti en 91. C'était le moment où vraiment il y a eu The Orb, Little Foo Free Clothes et tout ça. C'était la grande révolution de la house en Angleterre. Bernard Sumner au chant, alias Joy Division, puis New Order.
Never end. I will stay.
Week-end, on en est pratiquement à la fin de la troisième saison, une saison qui a été...
C'était quoi la daube que tu nous as mise là juste avant?
Mais c'était State 808,
okay.
Extrait de l'album Excel. C'est... Oui, parce que du sport est arrivé en plein milieu, et donc la voix c'est Bernard Sumner qui chante sur Spanish Earth, et que l'on entend aussi dans...
Et qui est Bernard Sumner?
Ah ben c'est le guitariste, si je me trompe, de Joy Division. Et quand le chanteur s'est suicidé, ils ont monté New Order.
Ah, voilà, oui, je me disais pas mal. Aussi,
avec le fameux label mancunien, qui est d'ailleurs le seul point intéressant de cette ville, puisque c'est pas pour le foot que... Bon. D'accord. Aujourd'hui, c'est une spéciale Greenhouse, donc je viens de chauffer Thomas, donc ça va être particulièrement gore et il va m'en vouloir à mort. Du sport, lui, il va parler des Anglais tout à l'heure, ça tombe plutôt bien vis-à-vis de l'introduction musicale.
Tiens, du sport parle des Anglais, c'est surprenant.
Et puisqu'on en est à parler d'anglais, on y va vers une immense déception, puisque je l'ai en main.
Doctor Who s'arrête.
Non, c'est le coffret de la seconde saison qui est édité par France Télévisions.
C'est tout petit.
Enfin, l'image est en format natif 16/9. Le premier coffret n'était pas en 16/9. Il y avait au moins la bande son en anglais, ce qui n'était pas trop mal, mais aucun bonus. Et ben là, aucun bonus, image en 16/9, et ils ont oublié de mettre un épisode qui a lieu entre les deux saisons, qu'ils ont diffusé en France, en plus, l'invasion de Noël. Et il y est sur le DVD anglais, j'ai vérifié, il y est sur le coffret de la série.
Déception.
Déception. Donc Thomas, tu vas me le racheter, moi avec les sous, je vais me racheter le coffret anglais, et puis voilà, hein, puisque là il sera bourré de bonus, Doctor Who Confidential, Torchwood et tout le reste. On en parlait hier au Toulouse Carnet, la réunion des blogueurs toulousains.
Et toi du sport, tu l'as déjà le coffret, non?
Non.
Non?
Non.
On va se battre pour le racheter alors.
Merci. Je rappelle que Thomas était super sceptique sur la série à force que je le fasse chier là-dessus. C'était pour ceux qui avaient manqué les premiers épisodes de l'émission.
Attends, laisse-moi finir Miami Vice la série d'abord. Puis,
Ah oui, d'ailleurs, on va se les échanger. Voilà. Tout ça pour dire que sur le blog de l'émission, Thomas donc s'est séparé du blog de l'émission puisqu'il a désormais son propre site. Ça, je vous en ai parlé la semaine dernière.
Ah bon ?
On est en train de refaire. Je suis en train de refaire tout le système de mon site pour que l'émission ait vraiment une page à part avec le suivi en continu de l'actualité, avec d'un côté mes chroniques de l'émission et pas mélangées en vrac avec celles des autres, les chroniques de Thomas et peut-être un jour les chroniques de Christine. Si, si, si. Ça va pas être triste, ça va être
sénant. Pourquoi les chroniques de Christine, c'est pas du sport qui écrit ses chroniques?
Eh ben disons que du sport, il a pas envie de se servir d'un ordi.
Non, moi je suis un bugger d'ordinateur, tu vois.
Voilà. Eh ben, tu continues à écrire et on scanne tes pages.
Ouais, non, mais c'est ce qu'on va faire.
Mais dommage pour Google.
Tu vois, moi, je suis old school, quoi, tu vois.
Oui, avec les, toujours les petits 1, 2 bis.
Ah oui, parce que c'est Thomas, c'est Thomas qui se tape le compte rendu, enfin, de la partie du sport, télé du compte rendu, et il souffre des fois, quand même. Soyons honnêtes et... pas consensuel, donc on vous le dit, le coffret DVD français de Doctor Who, évité à mort. Alors je ne vous conseille pas de faire par exemple comme Boulet dans son billet d'hier où il télécharge les épisodes de Torchwood et il les regarde. Mon dieu, mais c'est le TARDIS, donc ça me fait bien marrer. Bah non, bah voilà, donc pour le coup, ce sera non. Mais...
on est en train de dévoiler les films.
Oui, je suis désolé, je suis un fan, ce sera jusqu'au bout. Non, on va arrêter ? Ouais, bon, d'accord, ok. Thomas est en train de finir en catastrophe sa chronique, puisque lui, il a analysé la version américaine et la version française. Il est allé voir en salle, donc pour sa sortie de nouveau Tarantino. Et en même temps, on a trouvé sur YouTube les recettes secrètes
de Robert Rodriguez.
Et on va en parler tout à l'heure. Ce sera tout à l'heure dans la partie cinéma, toujours dans la partie cinéma. Donc il y a une semaine anglaise à la Cinémathèque.
Non, c'est le mois, c'est un mois complet.
C'est
hein.
un mois anglais
ouais,
complet,
ouais.
Mais c'est pour ça qu'il a plu en mai.
Tout le mois de juin, quoi. Tout le mois de juin, il y a une programmation de films anglais. On en parlera un petit peu plus tard.
Mais faites chauffer les téléphones, on a peut-être une surprise. Plus, on va entamer de suite les chroniques BD avec vraiment une tuerie absolue. Brian Wood au scénario et au dessin. Oui, pardon, Duce.
Non, je voulais juste te dire qu'il faudra éviter par la suite de passer ce morceau. Pas parce que c'est truc de Doctor Who, mais c'est la musique en fond, c'est quand même le rock and roll de Gary Glitter.
Oui, c'est vrai.
Qui est un pédophile convaincu.
Ouais, non, mais ça a été repris par les KLF. Et ils ont fait fait un livre de ce morceau qui s'appelle Comment être le numéro 1 des charts en Angleterre. C'est un manuel sur comment faire de la musique. Dont devraient s'inspirer d'ailleurs tous ceux qui sortent de la Star Academy. Brian Wood au scénario et au dessin, Riccardo Burcielli qui est un dessinateur en italien sur donc ce comics américain, notez d'ailleurs qu'il prépare une série en France, DMZ, le premier tome s'appelle Sur le terrain, ça vient de sortir dans la collection Vertigo chez Panini Comics. Il faut avouer que j'ai foncé dessus en librairie sur la très chaude et sincère recommandation d'un copain, Vric. Le grand maître, et il a tout à fait raison. Imaginez que Joe Dante, au lieu de faire de New York le terrain de jeu de ses Gremlins, dans le second film, en ait fait la zone d'affrontement de sa seconde guerre civile, le téléfilm qu'il a fait pour HBO. Laissez macérer pendant 5 ans, et vous aurez un nouveau Sarajevo 20 ans après le drame de la Yougoslavie. Les États-Unis se déchirent entre les USA et les FSA. 300 000 habitants restent dans un Manhattan en plein chaos. Coup de chance, pour la première fois depuis 5 ans, un cessez-le-feu semble tenir. Liberty News, chaîne émettant du côté USA de New York, en profite pour envoyer son reporter vedette en exclusivité mondiale, multiprimé, Pulitzer, ce que vous voulez. Recruté comme photographe stagiaire quelques minutes avant d'embarquer, Matthew Ross va être l'unique survivant d'un atterrissage sous le feu des snipers. Échappant par chance au massacre, récupérant par hasard le matériel vidéo, il devient l'unique journaliste pouvant envoyer des reportages depuis Manhattan. Il découvre vite que ceux qui y vivent ne sont pas des combattants, mais des gens qui n'ont pu fuir. Toute cette population a dû s'adapter comme elle a pu à ces conditions extrêmes, piégée en pleine zone de combat. Matt découvre qu'au départ, il était parti pour une opération de propagande, ce que l'on peut considérer comme un axe de guerre psychologique. Mais à défaut d'être embedded, un journaliste embarqué parmi les troupes, il va gagner son indépendance de point de vue au lieu d'avoir une probable sécurité. Quand il va découvrir ce que chaque camp appelle sécurisé, il va comprendre très vite qu'aucune guerre ne peut se targuer d'être chirurgicale. À la fois perdant ses préjugés et apportant un regard neuf, Matt va devenir un reporter sans camp réel. Une indépendance qu'il se prête au prix fort, puisqu'il va partager la vie de ses citoyens de la guerre, coincés dans la DMZ, zone démilitarisée. Mon œil. DMZ prend les tripes. Une grande nation qui tombe en lambeaux, les restes d'une armée qui tire sur des civils, en camouflant ça en franc-tireur hostile. Bah voyons, des bébés, des femmes, allons-y. Là où Frank Miller avait fait évoluer sa Martha Washington dans une guerre science-fiction kitsch, Brian Wood montre crûment les horreurs de la guerre. Des viscères éclatés, des projections de sang, et surtout le plaisir sadique de tuer. Parce que la guerre, c'est le moment où les meurtriers en série sont tolérés dans les rues. DMZ offre un réfi d'anticipation qui retourne les tripes, un hommage vibrant au journalisme de guerre. Le vrai, pas celui qui est embarqué dans les unités militaires, mais qui risque sa vie pour prendre de compte des drames humains. Un pamphlet qui devrait aider certains à mieux réfléchir sur la notion de caution morale de la planète. Triste destin pour la première puissance militaire du monde. Marianne Wood, Riccardo Bozzichielli, DMZ. Le premier tome s'appelle Sur le terrain et vient de sortir en français dans la collection Vertigo de Panini Comics. Lorsque le quotidien s'effondre, cela commence par ce qui est proche de nous. Non, ce n'est pas une citation de DMZ, quoique, mais de Keroro. Le premier tome vient de sortir en français chez Kana, et c'est une série qui est lancée par Mine Yoshizaki. Fuyuki est un jeune garçon qui croit aux extraterrestres, un peu trop d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est un amour extraverti pour Jean-Claude Bourré ou pour une pulsion pour enregistrer la moindre pub où apparaît ses frères Bogdanov. Le jour où sa sœur tente de le raisonner, c'est le flop intégral. Elle pointe au hasard le mur en hurlant « Là, un extraterrestre !» Manque de bol, c'est effectivement à cet endroit que s'était camouflé le sergent Keroro, un éclaireur de l'armée Gero, qui compte envahir la Terre et réduire ses habitants en esclavage. Physiquement, il ressemble à une grenouille un peu grosse, avec une chapka d'artilleur russe. Immédiatement capturé par Fuyuki, ce dernier s'empare de sa Keroro, le couteau suisse pour le commando en milieu hostile. Le sergent Keroro, prisonnier de guerre par deux ados, se fait traiter de grenandouille, largué par ses hiérarchies et privé de son arme au communicateur. Pour survivre, il doit se rendre à l'évidence. Il doit faire ami-ami avec ses grandes andouilles à peau rose pour mieux les berner. Et heureusement, il trouve un compagnon d'éclaireur Gero, Tamama, un soldat tout mignon mais complètement piquant. Bref, retrouvé par une fille qui a le béguin pour le héros. Rajouter à cette situation dramaturgique que la maison souris hantée et une mère éditrice de manga pour garçons aux avantages mammaires. Dieu bénisse Russe Meilleur, Dieu bénisse Russe Meilleur, au plus haut les super vixen. Bref, un shonen manga parfaitement calibré pour un jeune public masculin avec un personnage principal caricatural idéal pour une multitude de produits dérivés. L'invasion a parfaitement réussi au Japon, méfiez-vous, ça arrive en France. Je les ai vus. Ta-da-dum ! Du sport.
Ouais, j'ai pas vérifié sur ce coup-là, t'aurais dû m'en parler un petit peu avant, mais je crois que c'est diffusé actuellement le manga animé.
C'est plus que probable.
Sur Cartoon Network, me semble-t-il, hein. J'ai pas vérifié, mais enfin c'est une chaîne que j'ai pas en tout cas. chaîne enfantine, hein.
Mais en tout cas, c'est assez délirant et vraiment complètement allumé. Ça n'a de prétention que de faire rire, comme disaient des proches. Et de ce côté-là, ben c'est parfaitement réussi. C'est une grosse tranche de rigolade. Mais après, ça va pas très loin. En tout cas, après, vous pourrez dire, je les ai vus.
Alors ce raccourci, tu l'as jamais trouvé ?
Non, je me suis perdu dans un raccourci clavier en chroniquant cet album. Enfin bon, on en est déjà, je crois, au tome 2 ou au tome 3. Donc de ce côté-là, j'ai eu un peu de mal à suivre les sorties ces derniers temps. C'est un peu la folie furieuse dans les bandes dessinées. en S1 science-fiction. Kozue Amano. Aria, le premier tome de cette série fille, hein, d'une autre série qui s'appelle à quoi ? S'appelle 2301, Voyage vers Neo-Venezia. Et c'est sorti en France chez Camille. L'espèce humaine est bien partie pour conquérir l'espace. La Terre a été rebaptisée Man Home pour fêter le début de la colonisation spatiale. Mais Mars, terraformée, est devenue une planète océane, a perdu son patronyme guerrier pour celui d'Aqua. Cette planète est devenue aussi par endroits un parc d'attractions, avec la reconstitution quasi complète de la grande cité lacustre de Venise. Dans ce parc d'attractions grandeur nature, les touristes peuvent visiter les lieux historiques à bord de gondoles menées par des guides touristiques jeunes, efficaces, aimables et d'une très belle présentation. Et surtout, le service de ces compagnies est impeccable, puisque le patron mascotte, un chat en général, est présent sur chaque embarcation et que le personnel flottant porte le nom délicat d'Ondine et exclusivement féminin. Alors forcément, jeune fille plus manga, les obtus ES songeront de manière juste à la... au fin de service, le moment petite culotte, oui, il y a de quoi effrayer effectivement une candidate au présidentiel. Et gros avantage, ma mère. Eh ben, pas du tout, car leur tenue de travail,
encore,
très élégante, a tout de plutôt tout de plus chaud pour une planète moins proche du Soleil que de la Terre, pardon, que de Man Home. Et cela, on l'apprendra avec la série Aqua du même auteur. En guise de science-fiction dite art science, c'est-à-dire en anticipation technologique, nous voici dans une œuvre particulièrement inédite, une bande dessinée lascive, pas d'action, juste de grands moments de contemplation béate. Oui, on se plairait à voyager pour une Venise aux gondolières charmantes, débarrassée des odeurs nauséabondes, aux Olympides, sous un beau temps éternel. Quel joli rêve pour le futur. Aria, le premier tome, s'appelle 2301, Voyage vers Neo-Venezia, vient de sortir chez Camis et de Kozue Amano. Les chroniques bande dessinée du supplément week-end seront publiées en cours de semaine sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net et là vous cliquez, vous tombez sur mini-site du supplément week-end. Sinon on tracte un peu partout hein, pour vous indiquer l'adresse officielle de l'émission. Et toutes les chroniques sont réécoutables et vous pouvez bien sûr commenter. Interruption musicale et on va passer la chronique cinéma avec Thomas. Il est 12h21 sur la poubelle des radios, FMR 89.1 MHz, c'est le supplément week-end. Hot air hangs like a dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night. It's a dark night. Dark night. It's a dark night. Changing, strangers moving in. A new boy fell for a local girl when she made eyes of him. She was young and pretty, no stranger to other men. But windows were being locked at night, and old lines drawn again. It's a dark night.
It's a dark night.
The Blasters, Dark Knight, extrait de la Tarantino Connection. La séance Greenhouse vous est présentée par Thomas en Dolby Mono Surround. Pardon.
Alors je disais, le truc c'est qu'il faut pas confondre Grindhouse, Planète Terror et Boulevard de la Mort, puisque Grindhouse est la symbiose des deux films l'un après l'autre, avec des bandes annonces au milieu pour faire vraiment un double programme. Et de Boulevard de la Mort, c'est le film qui a été présenté à Cannes en version longue et qui sort en ce moment chez nous. Alors avant de parler de Grindhouse avec les bandes annonces et puis vraiment le format court, ben on va parler un peu de Boulevard de la Mort, qui quand même est le nouveau film de Tarantino, donc c'est quand même faut en parler quand même, merde. Et on sait un peu, vous avez vu un peu, si vous êtes renseigné avec le casting qu'il y avait, bon ben Kurt Russell. Kurt Russell, Rose McGowan qui fait une apparition dedans et qui est l'héroïne du film de Rodriguez.
Et qui est également dans Charmed.
Exactement, voilà, la quatrième sœur. Et alors, il faut savoir que Kurt Russell n'avait pas du tout été le premier choix de Tarantino, et le premier, justement, avait s'était désisté, et Kurt Russell est arrivé tel Zorro dans le rôle, et puis il faut le dire que ça le fait quand même, parce que bon, ça m'a été un peu habitué à ses apparitions chez Carpenter, voilà, exactement, à Snake Plissken, là vraiment, c'est... Bon, ça commence bien parce que Tarantino, il aime bien commencer des films avec un genre et puis torpiller ça et puis partir vers autre chose. Donc il y a pas mal d'évolution là-dedans, et puis il y a quelques, on va dire qu'il y a plusieurs films en un, même si c'est plus flagrant chez celui de Rodriguez.
Alors je vous dis pas, c'est l'introduction de cette chronique déjà est pas mal, mais je peux vous dire que si on faisait une émission de télé, vous serez littéralement scotché par la super balafre de d'Albator sur son front. C'est quand
merci,
même pas mal.
Ouais, merci le chat. Alors, de quoi ça parle ? Boulevard de la Mort, un groupe de nanas qui travaillent à Hollywood, dans... il y en a une qui est maquilleuse, l'autre, voilà, costumière, tout ça. Elles sont dans une bagnole, elles se racontent leurs déboires sexuels. Ouais, alors, c'est toi qui chevauchais, tout. Et sauf que, ben voilà, il y a une d'elles qui lance un appel à la radio, parce qu'elle anime l'émission, elle dit, voilà, il y aura Miss Butterfly dans tel bar, tel soir, et puis si vous la reconnaissez, il va falloir déclamer le poème suivant, et elle vous fera une danse de la mort, c'est-à-dire elle va se trémousser comme une chaudasse, et puis vous en garderez un bon souvenir. Et sauf que le premier mec venu, c'est Cascadeur Mike, c'est Kurt Russell. Sauf que Kurt Russell, c'est un tueur en série qui utilise sa bagnole avec un gros crâne sur le capot pour buter des jeunes filles sur la route.
Alors, déjà, faut préférer la VO, évidemment, à la VF, parce que, par exemple, une tirade...
Tiens donc, encore une fois.
Ouais, voilà, parce que, par exemple, un dialogue au départ qui dit... parce que Cascadeur Mike, il est balafré, parce que c'est un cascadeur, donc bon, il a eu... Il en a bavé, donc il dit... You're afraid by my scar. Et il y a la fille qui lui répond No, I'm afraid by your car. Et ça devient en français Tu es effrayé par ma coupure, non, par ta voiture.
Non, non, mais surtout, c'est... ça me fait penser que my scar, ça fait un peu NASCAR.
Bah, my scar, c'est la cicatrice en fait.
Oui, oui, mais ouais. Ça me fait surtout penser à NASCAR, les courses de voitures américaines. Quoi.
Voilà. Alors, bon, c'est l'univers du film, c'est celui des cascadeurs, puisque même sans spoiler, il faut dire qu'il y a deux films qui avec une jonction très précise. Voilà, c'est assez dur d'en parler, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Il faut savoir, donc c'est un film sur l'univers des cascadeurs qui est nostalgique par excellence, puisque il y a Cascadeur Mike qui a beaucoup de tirades en disant ouais, alors moi ma carrière ça a été doubleur de machin dans telle série, dans le Virginien. J'étais doubleur pour les chevaux, après j'étais doubleur de machin dans telle série, vous les connaissez pas? Non, ah c'est pas grave, vous savez, enfin voilà, il fait tout des discours nostalgiques. Cascadeur hein, qui dit oui, après j'ai conduit des bagnoles, puis à l'époque où c'était pas encore des effets, c'était pas déjà des effets numériques, avec des vraies bagnoles et tout, alors vous voyez, ça c'était les, alors il y a un box dans sa bagnole, alors là c'est pour mettre des caméras et tout, donc t'apprends aussi sur l'envers de Hollywood, puisque Tarantino c'est sa marque de fabrique, c'est un mec qui a grandi à côté d'Hollywood dans son vidéoclub. Il a tout le temps fait référence à des acteurs ratés qui voulaient percer, etc. Et donc voilà, donc c'est Cascadeur Mike, c'est le vieux sur le retour, sauf qu'on apprend par la suite que c'est un tueur en série, mais voilà, il a le discours bon les nanas vous êtes trop jeunes pour savoir, mais moi j'ai été ça. Et alors voilà, c'est l'univers des cascadeurs, il a sa bagnole, et puis sa bagnole, ça aurait été dommage qu'il s'en serve pas. Et il y a une poursuite d'anthologie, une poursuite en bagnole, mais vraiment, c'est du bullet, quoi. C'est, enfin, au niveau de bullet, au niveau, genre, tu t'en souviens, des années après, ouais. C'est pas exactement la même chose, c'est pas San Francisco, mais voilà, c'est à l'ancienne, c'est poussiéreux, ça dégage des grosses fumées, des grosses nuages de poussière derrière, t'as une actrice qui fait une putain de cascade, et l'actrice, c'est pas de loin, c'est la grue au-dessus d'elle, elle est en t-shirt moulant avec le piercing apparent, elle est jean moulant et tout, elle a pas de protection, tu vois, et là avec sa moyenne on se regardait mais c'est pas possible. Voilà, donc ça aussi ça participe à l'intrigue, et puis le scénario fait qu'on garde le secret sur ce qui va se passer à la fin, donc je vais pas trop en parler non plus. Et effectivement, dans ce film, Tarantino ne peut s'empêcher encore de faire ses inévitables clins d'œil. Alors, il se parodie lui-même de Reservoir Dogs, puisqu'il y a un plan séquence de 7 minutes d'une discussion des nanas autour d'une table, puisque ça fait référence à la section des gangsters dans Reservoir Dogs sur Madonna. Et là, elle parle d'une anecdote qui est arrivée à l'une d'elles, qui s'est cassée la gueule dans un fossé, elle a rien eu. Enfin, c'est encore un truc sur les cascades, justement. Et il faut savoir que la fille qui fait cette putain de cascade, c'était la doublure de Xena la guerrière. De Lucy Lawless dans Xena. Voilà, donc c'est. Attends, je vais vous montrer la photo. Bon, désolé, c'est juste pour la petite équipe de la radio.
Ouais, bah ça apprendra à ne pas payer la redevance télé hein, pour les autres. Qu'est-ce que tu veux que je dise?
Donc c'est elle.
Ah bah oui. Zoé oui,
Bell.
Oui.
Et elle apparaît dans le film et tout, elle joue dedans quoi.
Oui, elle joue dans Boulevard de la Mort. Alors il y a les clins d'œil, il y a.
Joli l'eau.
Ah oui, il y a les inévitables gros plans sur les pieds avec des petites bagouilles sur les orteils. Bon, ça c'est.
Oui, non, mais ça on sait que Tarantino est légèrement fétichiste du pied.
Voilà. Il y a aussi les discussions, mais interminables. Tu te dis, mais quand est-ce que ça va finir cette putain de discussion?
Bah, il aime bien les dialogues, il aime bien les. Sa cause, ça. Ouais,
on aurait dû prendre des canons sciés.
Voilà, et puis voilà. Il y a un autre truc que je voulais dire, mais je l'ai pas noté, donc je. Bon, c'est pas grave. Et donc, en plus, on peut se dire, bon, c'est bon, Tarantino, il fait un film à la manière de, comme les années 70 ou comme les films de gangsters. Mais en fait, pas du tout. L'impression qu'on en garde juste après le film, c'est que c'est pas un film à la manière de, c'est vraiment un film d'exploitation. C'est avec les codes, avec le titrage de fin, les enchaînements des plans, les raccords, les faux trucs, les sautes de pellicule. Parce qu'il y a un truc à quelques astuces astuce assez rigolote, puisqu'au moment où il y a les scènes, on va dire, des scènes les plus chaudes du film, donc il y a, excusez-nous, pellicule manquante. Nous interrompt, vous allez nous excuser pour cette interruption avec une voix toute monocorde derrière. Et après ça repart. Oh putain, on a manqué une bobine. Alors il y a quantité de trucs qui se sont passés. Ah ouais, alors, le mec il est en sang et tout, il y a eu de la baston là.
Pas mal.
Et c'est d'ailleurs un procédé qui a été aussi utilisé par Rodriguez dans son film, puisque c'est pour squeezer aussi sa scène de baise à lui. Ça, c'est vraiment dégueulasse.
Donc boulevard. Ah bah ça leur évite du coup une certification X aux États-Unis.
Exactement. Et donc voilà, c'est Boulevard de la Mort, donc avec Kurt Russell. Il y a aussi une apparition de Rose McGowan, il y a quantité d'acteurs. Bon, même si le casting qui fait peur, c'est surtout dans le film de Rodriguez, mais il y a voilà, casting de nana assez gratiné. Bon, c'est pas évident de manipuler le magazine. Et ce qui nous...
Bah, dis déjà dans quel magazine on peut l'avoir, c'est dans Score.
Oui, Score, dont j'ai chroniqué la revue de presse il y a 2 semaines, et c'est le spécial numéro double Cannes et Grindhouse, 164 pages avec Tarantino en couverture. Et donc ça nous amène à parler aussi du film Grindhouse, qui est la symbiose des deux films de Rodriguez et de Tarantino. Alors Grindhouse, il faut le voir, c'est le film de Rodriguez en premier, avec introduction, oui, vous pouvez voir dans nos salles, donc il y a des fausses bandes annonces qui ont été faites exprès par des réalisateurs.
Ah
donc,
ouais,
voir, je les ai notées. Donc on peut voir Machete, donc c'est la bande-annonce avec Danny Trejo,
bien sûr,
qui est tueur d'élite et qui se fait squeezer par son employeur, et puis il revient, il est pas content, voilà, couvert de balafres et tout, et puis il y a plein de plans contre-plongés avec des guns de partout, voilà. Il y a aussi le film Thanksgiving, bande-annonce réalisée par Eli Watt, le mec qui avait fait Hostel. Et alors là, bon, ça c'est un festival de Saint-Gore. Alors pendant la fête de Thanksgiving, il y a une tête découpée avec gros plan qui bouge sur les entrailles avec toute la barbaque tartare à l'intérieur. La nana blonde qui veut faire une pipe à son mec dans la bagnole décapotable, et elle se rend compte que le mec il a plus de tête à un moment donné. Bon, voilà, c'est assez gratiné Thanksgiving. Après, il y a la bande-annonce du film Don't. Alors, en VF, il y a le mec qui dit par-dessus, « Faut pas !» Le film s'appelle Don't, c'est un festival de screaming girl. « Non, Don't, faut pas aller à la cave, faut pas aller à la cuisine.
Voilà. » C'est marrant, Thierry, parce que ce que tu es en train de décrire, c'est ce que faisait un groupe de Canadiens, de start-uppers, qui avait profité de la bulle économique. Ça s'appelait Trailer Vision. trailervision.com, et leur idée, c'est la bande-annonce et le film. Ils faisaient que des fausses bandes-annonces, c'était assez énorme. Ils en avaient fait plus d'une cinquantaine. J'ai diffusé à l'époque sur Tchatch TV d'ailleurs. Et je crois qu'on avait vu pas mal. Et ça, Dante, ça a l'air de sortir idée quoi.
Mais là, c'est vraiment des vraies les bandes-annonces. Tu les vois sur une vieille VHS des années 70, mais
ça ne saute pas.
C'est vraiment la vraie. Et là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. En bande-annonce, il y a les femmes loups-garous des SS. bande annonce réalisée par Rob Zombie.
Ah oui!
Avec,
s'il vous plaît!
Avec des croix gammées derrière, avec des diodes allumées avec des shows, genre la nana qui fait ouais, allez, ça c'est cool et tout! Et puis elle transforme en loup-garou tout bleu avec un autre de Frankenstein. Alors il y a le casting qui dit avec machin et Ant, Nicolas Cage as Fu Manchu. Nicolas Cage qui se tourne et c'est vraiment déguisé en Fu Manchu, quoi, tu sais pas ce qu'il fout là.
Alors faut savoir que Rob Zombie, donc, c'est le chanteur du groupe White Zombie, qui depuis a une carrière solo, mais surtout il a été décorateur à MTV, notamment pour l'émission Yo MTV Raps et d'autres émissions, et il a réalisé ses propres clips pour White Zombie.
Ouais, il a été primé pour un de ses clips.
Il a été primé, voilà. Ouais. Donc, et en fait il a dit que depuis longtemps il voulait faire des films d'horreur complets.
Et d'ailleurs, Sport, il a réalisé House of the 1000 Corpses.
Ouais, et la suite, Devil's Reject.
Et il est en train de monter, réaliser, post-produire le film, son nouveau film d'horreur. Et est-ce que vous savez ce que c'est?
Ouais, j'ai un trou dans la tête là, tu vois.
C'est le nouveau film Halloween.
Yes, c'est vrai.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais, c'est lui qui s'occupe du dernier Halloween.
Et paraît-il, d'après ce que j'ai pu lire, hein, la bénédiction de John Carpenter, qui a déjà vu les rushs, qui a dit vas-y, c'est ton bébé, fais-en ce que tu veux.
Pour en revenir au Grindhouse.
Alors, juste un mot sur Carpenter, puisque voilà, Carpenter, faut savoir qu'il a jamais été contre les remakes de ses propres films tant qu'il touche du pognon et qu'il est producteur derrière. Ouais. Lui, il s'en fout, lui. Vas-y, allez-y, The Fog. bon là c'est une grosse merde, mais ouais, il faut être exécutif, voilà. Et alors Grindhouse, donc le deuxième segment, c'est Planète Terror de Rodriguez. Alors si vous avez vu La Nuit des Une Nuit en Enfer, donc c'est le même schéma, c'est-à-dire c'est un hommage à la au film de vampire et cette fois au film de zombie, donc c'est le même humour, les mêmes acteurs, Tom Savini, bon il y a pas Danny Trejo dedans, il devait être occupé ailleurs. Et alors le casting qui fait peur, donc Rose McGowan qu'on a vu dans Charmed, il y a donc Rosario Dawson, c'était dans celui de Tarantino, Freddy Rodriguez qui nous fait composition un peu hallucinée, qui cabotine à mort, genre c'est un truc avec des gunfights, il tabasse des zombies, c'est un mec, je ne rate jamais ma cible et tout, donc c'est le pur film de genre et tout, il nous fait une cascade à la Jet Li au moment donné, j'ai dit ouais, qu'est-ce que ça fout là, c'est la seule cascade à Kung Fu du film d'ailleurs. Il y a Navin Andrews, c'est l'acteur qui joue l'Irakien dans Lost.
Ouais, dans Lost, ouais.
Et il fait une espèce de super physicien qui collectionne des couilles des mecs qui bute. Donc il a un sac à couilles à un moment donné, il dit ouais, je vais te prendre tes couilles et tout. Et puis à un moment donné, il y a un plan où il y a des hommes de main qui sectionnent les couilles du mec. Donc ça, c'est hors champ. Et puis t'as une espèce de ploup, la petite boule qui est par terre. Et puis t'as Navin Andrews qui arrive, il marche dessus, la couille qui glisse. Vraiment le gros plan inutile. C'est super fandard. Il y a aussi Bruce Willis qui joue général de l'armée. Josh Brolin, bon évidemment on sait qu'il va virer à méchant parce que de toute façon il a une gueule de méchant, il peut pas faire autrement. Bon c'est voilà, c'est le casting qui fait peur, c'est énorme. Et donc il y a aussi un clin d'œil à l'infirmière de Kill Bill, puisque c'est joué par une actrice blonde qui a des seringues qu'elle peut envoyer comme des projectiles. Voilà. Mmh. Trois seringues, jaune, bleu, rouge, ou jaune, orange, rouge. L'une paralyse, l'autre endort, la troisième neutralise complètement. Donc c'est plein de petites trouvailles comme ça de personnages. Bon, c'est un film par rapport au Tarantino. Pas dire que ce soit un bon film parce que bon, c'est tu te fends la gueule dedans, mais c'est un peu comme du Takashi Miike super soft, c'est à dire que bon, le mec il s'est fait plaisir, il y a des potes avec lui, et puis tu dis ah, il y a de bonnes idées, c'est bien gore, des zombies, des caniers avec des hélices d'un hélico, mais bon. Voilà, ça pète pas très haut, mais alors que le Tarantino, par contre, t'as des séquences vraiment, c'est des purs moments de cinéma, et même si c'est juste un hommage à un film de genre, c'est quand même un film de cinéma super bon. Donc voilà, c'est un peu la différence entre les deux.
Voilà. Alors la question pardon.
Non mais c'est également parce que il voulait rendre hommage à ce qu'on appelait ces films Z, oui. À ces fameuses doubles séances, à savoir que t'allais au cinéma mais tu pouvais voir deux films. Généralement c'était les trucs en plein air, hein, grand écran, drive-in dans ta bagnole, et puis tu pouvais regarder deux films à la suite, qui souvent avaient rien à voir l'un par rapport à l'autre. Il y en avait un qui pouvait être pas mal, l'autre c'était une grosse merde, mais bon, rien à foutre, t'as payé pour les deux, tu restes pour les deux, et puis c'était le temps que tu passais également à essayer de poter ta copine.
Voilà, voilà, c'était ça l'intérêt du deuxième
c'est
film.
C'est ça l'intérêt, quoi. Et donc, c'est l'hommage qu'ils ont voulu rendre en faisant, bon, ben, une copie conforme, hein, avec les pellicules qui sautent, les bobines manquantes.
Ah oui, là, les pellicules qui sautent, il y en a de partout, il y a aussi, ouais, des bobines manquantes, il y a des faux raccords, t'as des stop images, tu dis, oh là, ouais, du flou, voilà.
Ouais, ouais, ou même quand t'as pas de bruit, tu sais, t'as des moments de silence dans le film, t'entends derrière, t'entends la bobine de projectionniste qui est en train de tourner.
Mais là malheureusement ça n'a pas eu un grand succès aux États-Unis.
Ils sont plantés totalement.
Il a beaucoup mieux marché d'ailleurs dans le festival qu'il a fait dans un multiplex à Los Angeles, à ce qui paraît.
Oui, oui, il a organisé un festival avec que des vieilles bobines de films comme ça. D'ailleurs, Grindhouse, en fait, c'est pas que les gens... Il y a eu une chute de fréquentation dans la deuxième semaine à cause du bouche à oreille. C'est juste les gens qui sont allés voir, ils ont aimé. Mais c'est juste que les gens, ils n'avaient pas envie d'aller voir ça. Voilà. Mais
pas de bol.
Après, c'est... bon, on voit ça, les deux à la suite, bon, on prend son pied, quoi. C'est... voilà, mais en même temps, voilà, ce que je disais, c'est que même s'ils ont voulu faire un hommage, il y en a un qui a juste fait l'hommage en voilà, parce qu'il fait trois films par an, et l'autre qui a fait un hommage en pensant ouais, bah, putain, ce film, il va être il aura pas honte d'être cité dans sa carrière, quoi. C'est voilà.
Alors, deux questions techniques. La première, c'est est-ce que Harvey Scissorhands, le patron de Miramax, a bien fait les coupes entre la version française et la version anglaise, américaine, pardon?
Bah, sachant que le Tarantino et Rodriguez sont ses fers de lance, je pense que les deux...
Mais je sais qu'il coupe encore pas mal dans Rodriguez, hein, mais par rapport à Tarantino...
Rodriguez, faut savoir qu'il a son ranch avec sa propre salle de montage, et c'est lui qui fait tout. Donc Rodriguez, vu qu'il est assez prolixe et qu'il fait 3 films par an, il est détenteur de la franchise Sin City. Il y a des Sin City 2 qui va sortir et qui fait pas mal de films de genre, mais qui
oui, comme Spy Kids,
qui coûte pas un rond et qui rapporte pas mal de thunes. À mon avis, ça m'étonnerait qu'il fasse le malin avec lui. Et Tarantino, c'est un réalisateur qui est intouchable, c'est-à-dire que c'est un mec qui est resté fidèle jusqu'au bout. Rodriguez, il a emboîté le pas. Et il y a un troisième réalisateur qui est resté fidèle à Weinstein, c'est Kevin Smith. Donc à mon avis, ces trois-là, il va pas s'amuser à aller recouper les films derrière leur dos, mais par contre, les nouveaux, ouais, effectivement, c'est ce qu'on voit dans le...
Dans l'excellent sexe, mensonge et Hollywood, voilà. Il faut que je te rende, ça fait longtemps, mais j'ai avancé dans le book, hein, premier juré. La deuxième question, c'est quelle est la recette secrète de Roberto Rodriguez, puisqu'on parlait de son ranch?
Ah oui, donc c'est toi Xavier qui va un peu développer ça puisqu'on est en cette
Donc c'est sorti sur YouTube, c'est des bonus qui sont sur les DVD de ces films dont Sin City, il y en a eu que deux pour l'instant, c'est 10 minutes lessons for cooking, des leçons qui durent d'ailleurs en fait 7 minutes hein, plutôt pour apprendre à cuisiner comme dans les films de Roberto Rodriguez, c'est le réalisateur lui-même qui a fait le bonus et qui cuisine et qui vous donne la recette du tacos façon Sin City.
C'est le tacos de Breakfast Sin City, c'est-à-dire c'est quand il est à 4h du matin qu'il est encore en train de monter Marv, en fait il se fait une pause tacos, voilà.
Voilà, et il explique tacos, c'est-à-dire vous prenez le sachet de tacos que vous avez acheté au supermarché, vous ouvrez le sachet, vous jetez le tout, et vous allez faire la pâte à tacos, il vous montre du tout de A à Z, et pour lui c'est « Not knowing how to cook is not knowing how to fuck ». Alors je suis désolé pour Catel, mais depuis la pauvre est toute retournée et c'est des vraies leçons de cuisine qui sont assez délirantes et alors l'autre recette, je suis à peu près sûr qu'on puisse trouver des feuilles de bananier, mais les épices, je garantis rien. Donc
il enveloppe la viande dans des feuilles de
bananier, voilà. Oui. Mais après ces épices, je ne suis pas sûr. Donc on les trouve sur YouTube. Et donc on apprend que dans les films Roberto Rodriguez, il est question de bouffe. En fait, indirectement, il y a quelqu'un qui mange. Alors, est-ce qu'il y a un plat qui apparaît dans le segment de Rodriguez?
Non, il est question à un moment donné d'un restaurant, puisque c'est là que des boules commence l'affaire. On voit, je pense... attends. Non, dans le Tarantino, on voit Kurt Russell en gros plan en train de bouffer une pizza, mais au début, on sait pas que c'est Kurt Russell. Mais non, dans le Rodriguez.
Attention, parce qu'en plus, dans la vidéo, on voit que Rodriguez, quand il a des amis qui viennent chez lui, que ça soit Quentin ou les autres, il y a une carte. Il a fait une carte de restaurant et il fait So, what do you want me to cook? Et il fait la cuisine. Voilà, en direct.
Alors, dans
live.
Celui avec les épices, c'est lui qui filme, puisque c'est à bout de bras.
Ouais, oui, ça prend 4 heures voilà. De cuisine, et il y a un très bon monologue sur apprendre à cuisiner, l'avoir envie de cuisiner et tout
voilà,
ça.
Sur le deuxième, c'est pas lui qui filme, puisqu'il est suivi par un mec avec un effet fisheye de la caméra, c'est-à-dire une toute petite caméra avec juste les éclairages de la haute et tout. C'est bien foutu parce que c'est mine de rien, c'est pas évident. Il a découpé de façon assez rythmée. Tiens, ça donne vachement envie de cuisiner. Bon, c'est des plats mexicains et ouais, c'est bien foutu.
Je veux dire que les mexicains, il n'y a pas de salade. Tout ce qu'ils connaissent en salade en général, c'est les feuilles de cactus frites. Donc, c'est assez gras, assez lourd. Et les tacos du petit déjeuner, c'est vraiment des tacos comme ça qui bouffent au petit déj. C'est vraiment costaud, mais ça vaut le coup. Donc, voilà.
Et je vais juste retrouver, parce qu'en parlant de Rodriguez, il y a un truc assez rigolo. C'est, je vais vous le retrouver. Il a nommé ses enfants d'une façon assez originale. Alors, je vais vous retrouver la page de Rodriguez. Rodriguez en famille, c'est juste après ça. Voilà, page de Rodriguez. La famille Rodriguez. Donc, son fils aîné, c'est quand même lui qui a écrit le scénario de Spy Kids 3D. Alors ses fils ils s'appellent Racer, Rebel et Rocket. Voilà, le mec Rodriguez dit ouais, je vais les appeler comme ça, tiens.
Et ben maintenant, on va écouter un groupe en R, The Coasters. Bon.
Cat named Joe. He wears a red bandana, plays a honky-tonk down in Mexico.
He wears a purple sash and a black mustache
in a honky-tonk down in Mexico.
Well, the first time that I saw him, he was a sitting on a piano stool. I said, tell me, Dad, when does the fun begin? He just winked his eye and said, man, be cool. He wears a red bandana, plays the blues piano
in a honky-tonk down in Mexico.
He wears a purple sash and a black mustache
in a honky-tonk down in Mexico. In Mexico,
all of a sudden in walks a chick.
In Mexico,
don't start playing on a Latin kid.
In Mexico,
around her waist she wore three fishnets.
In Mexico,
she started dancing with the castanets.
In Mexico,
I didn't know just what to expect.
In Mexico,
she threw her arms around my neck.
In Mexico,
we started dancing all around the floor. And then she did a dance I never saw before. So if you're south of the border, a cat named Joe. He wears a red bandana, plays a blues piano
in a honky-tonk down in Mexico.
He wears a purple sash and a black mustache
in a honky-tonk down in Mexico.
Hey, come with me to the border, south of the border. Your kicks in Mexico. Come with me, baby. Come with me.
The road to Mexico. Non, down in Mexico, the coaster. C'est donc dans Greenhouse. Et tout de suite, du sport continue avec la programmation anglaise.
Les coasters qui nous ont fait également Along Came Jones, qui est la version originale de Zorro est arrivé d'Henri Salvador.
Zorro est arrivé, oui, mais d'accord.
Along Came Jones.
Donc, on revient dans le Toulousing. Après coup. Mais
non, mais juste vite fait, dans la bande originale du film, là, dont Thomas vient de parler. Il y a également Joe Tex, il y a Eddie Floyd, alors ça c'est funky soul quoi on va dire. Il y a également Pino Donaggio qui est présent dans chaque film de Tarantino. T'as un morceau de Pino Donaggio, Ennio Morricone bien sûr. Ça sont deux musiciens de film. Hein.
Pino Donaggio c'est notamment le compositeur attitré de Palma. Hein.
Ouais. Et T-Rex avec Gipster qu'on écoutera un petit peu plus tard quoi. Ou que tu peux balancer quoi.
Ouais, mais dire que Thomas en plus il va nous expliquer après ce qu'il n'y a pas entre les deux films.
Alors, vous êtes certainement au courant car FMR est en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse pour ce Made in London, à savoir une programmation consacrée à la ville de Londres et au travers plein de longs métrages qui sont pour la majeure partie bien réalisés par des Anglais. Il n'y a pas que ça, hein, de toute façon. Et c'est assez éclectique. Ça donne une part vraiment très très belle à la musique dans les films. Hein, c'est tout ce qui nous intéresse. Enfin, c'est pas mal ce qui nous intéresse d'ailleurs. Mais pas que. Alors, on va vite fait vous parler des films qui seront à l'affiche, qui sont à l'affiche à partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi prochain. Avec déjà aujourd'hui. À 18h30 à la Cinémathèque, donc Made in London, dans le cadre de cette manifestation Made in London, le film de John Boorman, Leo the Last. Alors là, franchement, j'ai vu ce film il y a tellement longtemps que je me rappelle absolument pratiquement rien, quoi. Donc je vous en parlerai pas. Je peux vous dire que c'est un film qui est pas mal, quoi, quand même. Qui a rien à voir avec les films qu'il a fait par la suite, hein, d'ailleurs, quoi. Bon, à l'époque, c'était quand même le film, on va dire, un peu fauché, quoi. Enfin bon, c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis là. Et ouais, c'est suivi.
C'est pas Excalibur, quoi.
Ah non, pas du tout. Non, rien à voir. Alors, rien à voir du tout. Il s'est suivi à 20h30 par un deuxième film, dont on avait déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça, le One Plus One de Jean-Luc Godard, à savoir c'est le film de Godard qu'il a fait avec les Rolling Stones durant la séance d'enregistrement du morceau Sympathy for the Devil. Entrecoupé, c'est ça. Alors bon, bah, vous assistez à la séance d'enregistrement dans laquelle, bon, bah, vous voyez les Stones comment ils font un morceau et entrecoupé par des messages révolutionnaires des Black Panthers. Alors bon, bah, voilà, hein, c'est comme ça, c'est du Godard.
Wow.
De toute façon, c'était sorti en 68, ouais, en 68, hein, me semble-t-il. Et alors, ça a tordu le cou à la rumeur et à ce qu'ont toujours voulu dire les Rolling Stones, hein, à savoir qu'ils enregistraient les morceaux en une prise. On n'est pas comme tous les autres et tout. On commence par la batterie, ensuite on met la basse, ensuite il y a le guitariste qui vient et le chanteur arrive en dernier. Comme ça se fait généralement, quoi, quand on enregistre un morceau de rock. Enfin, ce que les ingénieurs du son ont voulu que ce soit au niveau de l'enregistrement, hein, ce qui est un petit peu con. Et les Stones disaient non, non, nous on arrive dans le studio, on déballe tout, clac, on joue, on enregistre, on pousse le bouton enregistrement et clac, on sort le morceau. Et là, bon, bah, ça démonte le truc complètement parce que bon, bah, tu assistes à des phases où bon, bah, la moitié des mecs sont pas là, il y en a qui sont en train de fumer un joint derrière, ah bah non, putain, il est pas venu, où il est, qu'est-ce qui se passe, ils s'engueulent pour savoir, tu sais, les fameux chœurs, pour savoir qui va faire les chœurs et tout. Enfin bref, ça démontre que bon, bah, déjà à l'époque, les Stones c'était plus vraiment tellement un groupe uni. On assiste également, eh bien, à la décadence, à la décrépitude de Brian Jones, hein, qui était là vraiment complètement à la masse, hein, là, vraiment il a été utilisé, enfin c'est-à-dire il est là juste parce que bon, c'était le mec glamour des Stones, hein, encore plus que Mick Jagger, hein, c'est pour ça que bon, bah, il y a eu cette rivalité entre Jagger et Brian Jones. Bon, on sait pas si c'est lui qui a poussé dans la piscine, mais ça on s'en fout, quoi, de toute façon, hein, ça le fera pas revenir, le pauvre Brian. Mais c'est un documentaire vraiment très 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 intéressant, hein. Mais bon, bah, ça ne concerne qu'un seul morceau des Stones, à savoir le Sympathy for the Devil, un des meilleurs morceaux des Stones. Donc ça c'est One Plus One de Jean-Luc Godard, c'est ce soir à la Cinémathèque à partir de 20h30. Demain, eh ben, Mick Jagger avec à 17h30 le film Performance, qui est je crois le premier film de Nicolas Roeg, qui a fait après L'Homme qui venait d'ailleurs avec David Bowie, et après d'autres films assez intéressants, en compagnie de Donald Kamel. Et là, putain, j'aurais dû voir, parce que Donald Kamel a également fait d'autres films pas mal. Et le film, c'est Performance. Alors là, ben, ça raconte l'histoire d'un tueur interprété par Edward Fox, excellent acteur d'ailleurs, qui ben, après une exaction, eh ben, il doit se planquer, quoi. Donc il se planque dans une baraque qui est occupée par une star de la pop, une star du rock, et cette star du rock est interprétée par Mick Jagger, qui joue pas vraiment son propre rôle, mais enfin bon, c'est vraiment très 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 rapprochant, et Mick Jagger il en fait des tonnes, de toute façon.
C'est écrit sur mesure.
Ouais, ouais, il en fait des tonnes dans le film. On dit putain, mais qu'est-ce que c'est cet acteur de merde. Mais par contre, ça vaut le coup parce que ça remet dans l'ambiance de l'époque, à savoir, bon, bah, mec déjanté et tout. Alors bon, bah, c'est un film un petit peu psychédélique quand même, hein, parce que bon, l'essentiel de l'action, hein, le gros du film se passe dans la maison, avec Mick Jagger complètement défoncé, des nanas à poil qui se baladent dans tous les coins. Enfin bon, voilà, c'est intéressant quand même, c'est à regarder. Performance, donc demain, donc à partir de 17h30. Ensuite lundi.
Sarah Violi.
Non, c'est il y a pas, c'est la fermeture de la cinémathèque.
Ah oui, c'est vrai, c'est la fermeture hebdo.
Putain, on voit ceux qui y vont souvent, quoi.
Oh, pardon, mardi. Ça va.
Mardi, un film dont je peux pas vous parler parce que j'ai pas vu du tout, c'est les 9 vies de Thomas Katz de Ben Hopkins à 18h30, suivi à 20h30 d'un classique de Stephen Frears, My Beautiful Laundrette. Ensuite, eh ben, on reprend les mêmes mercredi, à savoir à 16h30, Leo the Last de John Boorman, à 18h30, My Beautiful Laundrette de Frears, et à 20h30, le One Plus One de Godard. Ensuite, parce que il faut dire que la programmation de la Cinémathèque et le Made in London est à cheval également avec la programmation classique de la Cinémathèque, hein, c'est-à-dire et également avec putain de marathon des mots qui nous coûte les yeux et puis que voilà.
Et puis que tout le monde.
Ouais, ouais, et puis que ça permet.
C'est n'importe quoi. Et dire que c'est là-dessus qu'ils veulent axer Toulouse, capitale européenne de la culture, c'est du flan. Hein.
Ça permet au moins au Grand Hôtel de l'Opéra d'afficher complet pour une fois. Parce qu'il faut bien loger tout ce monde.
Toulouse, si tu nous écoutes.
Et cette programmation Made in London pour la semaine à venir se termine vendredi prochain
enfin disons vendredi prochain, on a encore un film. C'est le fameux Blow Up de Michelangelo Antonioni, dont on va pas reparler, hein, multidiffusé à la télé, hein, je sais pas, il est passé depuis le début de l'année, je sais pas, il a dû être au moins une dizaine de fois sur une chaîne ou l'autre à la télé. Mais, ne serait-ce parce que l'alibi du film, à savoir le photographe qui fait des photographes de mode et qui découvre dans un petit détail, en agrandissant la photo, qu'il y a un cadavre et donc il va essayer de rechercher le cadavre, tout le bordel, mais ça va l'amener dans une espèce de situation pas possible, interprétée magnifiquement par David Hemmings. Le film vaut justement d'être vu en grand écran, c'est-à-dire au ciné, quoi, parce que justement bah, la qualité picturale fait que c'est vraiment un très très bon film. C'est d'ailleurs la palme d'or du Festival de Cannes de cette année-là, c'est-à-dire hein, en 67, hein, semble-t-il. Enfin bon, hein, on n'est pas trop à une année près. Voilà, c'est le blow-up de Michelangelo Antonioni, dans lequel on voit apparaître les Yardbirds, qui était un des groupes phares de l'époque, un groupe anglais, et dans lequel il joue un morceau, hein, parce qu'à un moment David Hemmings il suit une nana, et puis bon ils arrivent dans une boîte, et puis dans cette boîte bon ben t'as le groupe qui joue le morceau, quoi. Et déjà c'est une performance assez rare, hein, de voir les Yardbirds comme ça au cinéma, mais en plus avec les deux guitares. Il faut savoir que les Yardbirds bah tu commences par le Stroll On, alors tu cherches, hein, voilà, hein, le okay. 13, ok. Il faut savoir que les Yardbirds ont compté dans leur rang, ben, la crème des guitaristes anglais de l'époque, c'est-à-dire dans les années 60. Ils ont commencé avec Eric Clapton. Ensuite, il y a eu Jeff Beck.
Ah oui.
Et,
oh, punaise!
Et ensuite, il y a eu Jimmy Page, quoi. Enfin, Jimmy Page a fait un aller-retour, mais enfin, bon, il était très, 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 voilà. Et donc, ce que vous écoutez là derrière, c'est le morceau qui est joué durant cette séance. Et c'est assez marrant parce qu'à la fin, tu les vois qui commencent à péter leurs amplis. Et c'était pas du tout le style des Yardbirds à l'époque. C'était que les Who qui faisaient ça. Les Who, à la fin de chaque concert, pratiquement, ils commencent à tout péter. La batterie, ils cassaient les guitares et tout. Enfin bon, tout bordel. Et là, les Yardbirds ont voulu faire un petit clin d'œil comme ça. Ont voulu piquer un petit peu l'affiche aux Who qui pétaient leur truc et qui étaient un petit peu renommés pour ça. Et donc, à la fin, ils font pareil. Alors, t'as la scène, à la fin du morceau, tout le monde qui prend sa guitare, qui la pète. Et c'est également l'un des...
Il manque un CD.
Ouais, bah tant pis. Hein. On n'aura pas l'autre version, tant pis. Quoi. Elle est restée dans le lecteur. Il faut savoir également que c'est à l'occasion de ce film, on a la présence des deux guitaristes, à savoir Jeff Beck et Jimmy Page, qui ne pouvaient pas se sentir.
Hey.
Et donc... Il faut savoir que normalement Jimmy Page ne faisait pas partie du groupe à cette époque-là, mais quand il a su que ça allait, qu'il y avait ce buzz à propos du film, il a voulu absolument apparaître dans le film, et donc ok, les autres, bon d'accord, ok, on va faire ce truc-là. Et si vous êtes un petit peu musicologue et que vous connaissez un petit peu le rock'n'roll, le blues et tout ça, vous avez reconnu là le morceau, le titre du morceau c'est Stroll On. En fait, la base rythmique et la base mélodique du morceau, c'est le morceau de Johnny Burnett qui s'appelle The Train Kept Rolling, qui a été repris un nombre incalculable de fois. Même Aerosmith l'a repris à un moment donné. Mais du fait que Michelangelo Antonioni voulait que, parce qu'il trouvait que ce morceau était vachement bien, il voulait que les Yardbirds jouent ce morceau, Train Kept Rolling, ils ont demandé à l'éditeur s'il pouvait utiliser le morceau, et l'éditeur il a dit non, pas question, faut payer et tout, et il dit pas de pognon et tout, quoi. Et donc avant de tourner la scène, t'as carrément le chanteur Keith Ralph, qui est chanteur et harmoniciste, qui est allé dans les chiottes vite fait, qui a griffonné d'autres paroles, quoi, qui a changé les paroles du morceau, regardant toute la balade. C'est exactement le même morceau, mais les paroles changent, le titre est changé, et puis voilà, hop, vas-y, Michelangelo, tu peux tourner, on fait le morceau sans problème. Et c'est ce qui s'est passé, donc c'est pour ça qu'on peut voir ce morceau qui s'appelle Stroll On dans le film de Blow Up de Michelangelo Antonioni.
On va casser quelque chose ici. la baraque.
Non, 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 on casse rien. Il y en a d'autres qui s'en chargent, de toute façon, péter le matos. Alors, dans le cadre de ce partenariat entre Éphémère et la Cinémathèque de Toulouse, on peut vous offrir des invitations. Alors, Mathieu, qui me les a gracieusement enfilées, il m'a dit, écoute, c'est vachement plus cool si tu fais gagner une personne pour deux, tu vois, genre en couple, tu vois. Alors bon, la première personne qui téléphone, gagne les deux invitations, là, au 0561 580 580, deux invitations pour voir le film de votre choix, hein, durant tout le cycle Made in London, durant le mois de juin, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez choisir le film que vous allez voir, il n'y a pas de problème. Vous téléphonez là direct et puis ça va le faire.
Il y a d'autres films que ceux que tu as cités ?
Ah ouais, il y en a d'autres, hein. C'est pas mal, quoi. Il y a qu'est-ce que j'ai repéré, quoi ? Oliver Twist, il y a Travail au noir de Skolimowski qui est vraiment bien, Le voyeur de Michael Powell, ça c'est le gros classique, Mike Lee avec Naked. Il y a également, alors il y a un film qui est super bien et qui rappelle un petit peu la première chronique à propos de DMZ. Parce que c'est un petit peu le même style, et c'est assez bizarre parce que bon, c'est un film qui est très très vieux, qui date de 48, hein, qui est également programmé dans cette ça passe. Ah bon, ok, il m'avait baissé.
Excuse-moi,
le micro.
Excuse-moi, j'ai bossé le mauvais micro.
Il y a un film également dans cette programmation qui ressemble un petit peu au DMZ. C'est un petit peu le même argument, à savoir c'est Passeport pour Pimlico, hein, qui passera plusieurs fois à partir du 19 et du 20 juin, un film d'Henri Cornelius. Et alors ce film est vachement rigolo, c'est le cinéma anglais d'après-guerre, genre Alexander McKendrick et tout, les comédies dramatiques des années 50, le grand cinéma anglais, hein, de cette époque-là. Et là, l'argument est vraiment super sympa, quoi. C'est Pimlico. Si t'as déjà été à Londres, tu connais un petit peu. Enfin, c'est un arrêt de bus et tout. Enfin,
oui.
En fait, l'histoire, c'est que à un moment, ils font des fouilles parce que bon, c'est juste après la guerre, donc ils déblayent un petit peu et ils trouvent un vieux manuscrit qui date, je crois, du 13e, 14e, 15e siècle et qui déclare que cet endroit, Pimlico, enfin comme il s'appelait à l'époque, était un état indépendant. Et donc de ce coup, ils décident, le quartier de Pimlico décide de faire sécession par rapport au reste de Londres.
À la
couronne. Et ils installent des barricades, ils installent des postes frontières et tout. Ils commencent à éditer des passeports et tout. Et puis ils commencent à s'organiser comme un vrai petit pays à l'intérieur de Londres. Ah, c'est vraiment très très rigolo. C'est vraiment très très bien.
Faut savoir que le système anglais de propriété est assez particulier, puisque en fait il n'y a aucune propriété qui est réelle en Angleterre. Ce ne sont que des locations pour un siècle, je crois, auprès de lords. Et en fait Londres est partagée entre trois lords propriétaires. La reine. Donne une certaine possibilité à ces lords de faire une propriété temporaire sur ces terrains. Donc c'est à la fois une diatribe contre la monarchie et contre le droit assez particulier de la propriété en Angleterre. Donc n'appelez plus, les places sont gagnées.
Ouais, d'accord, ok. Donc moi je conseille ce film, hein, parce que c'est vraiment un petit peu un ovni par rapport à la programmation. Et puis je l'avais vu dans un ciné-club de la 3 il y a très
longtemps. Ce film, hein, est issu de la grande période anglaise.
Ah ouais, non mais il y en a d'autres, hein, j'ai pas tout fait là. Il y a des trucs assez bizarres, hein. Ils ont programmé Les Formants de la Nuit, hein, le Night in the City de Jules Dassin, quoi. Alors bon, c'est assez bizarre quand même comme programmation, mais bon. Celui-là était passé cette semaine, quoi, mardi dernier. Voilà, mais enfin bon, ça vaut le coup, hein, quand même, quoi. Et il y a également Jubilé qui va passer. Alors là, Jubilé, ça c'est pas loupé, hein, ça c'est pour les punks. Nous sommes tous un peu punks dans l'âme, quoi, de toute façon. Voilà pour Made in London. Non,
attends, juste une
heure. Nous vous annonçons que les deux places ont d'ores et déjà été gagnées, car bravo à le regagnant qui est Laurent Planès, qui va venir les chercher tout à l'heure. Voilà, qui a gagné deux places pour le cycle Made in London pour les deux films de son choix.
Donc voilà. On va passer à la télévision du coup.
Ouais, un petit peu, avec pas grand chose en fait, hein. C'est calme plat. De toute façon, à la télé, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a que dalle, rediff. Donc j'ai décidé d'attaquer avec quelques petits documentaires qui vont être diffusés prochainement. Enfin, cette semaine à la télévision, dans tous les genres, hein. Alors je me suis amusé, enfin je me suis pas amusé, quoi, parce que bon, c'était pas tellement rigolo, mais très 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 bien le documentaire dont je vous avais parlé la semaine dernière sur Boris Lurie et le No Heart, hein, ce survivant, hein, ce ce juif allemand qui est né à Riga, c'est-à-dire en Lettonie ou en Estonie, enfin ouais, Lettonie hein, plutôt, et qui s'est tapé quand même 3 camps de concentration. Il en a réchappé. Alors dans le documentaire, il raconte que lui et son père en ont réchappé, mais par contre sa sœur, sa mère et sa grand-mère sont restés là-bas et qui émigre après aux États-Unis. Et on le retrouve là dans ce documentaire qui est assez récent, hein, donc il est très très vieux le mec, hein, il fume cigarette sur cigarette, hein, et sur les documents d'époque, sur les photos d'époque d'ailleurs, on voit qu'il fumait déjà, donc il est toujours vivant, c'est cool, c'est ouais, pas
et
mal. Et
il a vraiment une chance de cocu.
Et qui a développé justement ce qu'on appelait le no art. Alors au départ c'est un petit peu des délires un petit peu dadaïste, hein, genre collage, peinture, mélange de genre.
Hein, provocateur d'ailleurs.
Provo quoi, et à une certaine époque, hein, c'est dans les années 50 et au début des années 60, c'était surtout par contradiction avec l'art bien pensant américain, à savoir le pop art, hein, qui vénérait un petit peu la culture américaine et le mode
la société de vie, consommation,
la société de consommation, voilà. Alors que lui, bon bah c'était plutôt
on pense au soup canne de Campbell par exemple.
Voilà, exactement. Il le cite d'ailleurs
dans le documentaire.
Dans le documentaire. Ouais. Alors bon bah les tableaux, hein, qu'il réalise, bon au départ c'est par rapport à ses souvenirs. Soit pendant le ghetto, soit pendant les camps de concentration, et après bon les collages. Alors c'est un mélange de collages entre des photos issues de camps de concentration, hein, ce qu'il y avait dedans, hein, les photos bon pratiquement tout le monde connaît, et avec à côté ben des nanas, des pin-up des années 50 bien dénudées qui sont en train de baisser la culotte, qui écartent les cuisses et tout, et un petit peu de peinture, vas-y. Également des happenings un petit peu dadaïste comme ça. Enfin c'est vraiment très très intéressant le type vraiment. Excellent quoi, vraiment ce qu'il raconte par rapport à la Shoah, mec qui fait des cauchemars toutes les nuits bien sûr, bon bah ça ok, mais ça ne transpire absolument pas quoi dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir, hein, c'est vraiment c'était un très très beau documentaire, hein, hier soir sur dans le cadre Shoah et Pin-Up, hein, et juste après il y avait le film de Lina Cavani, Portier de nuit. Voilà, on reste un petit peu dans le même registre avec le premier documentaire qui passera sur TF1 mardi prochain et toujours très tard le soir après Grey's Anatomy, hein, je sais pas si t'avais vu le tombeau de Jérusalem là,
le film du réalisateur, oui,
produit par James Cameron là,
voilà, oui.
C'était pas mal, hein, franchement c'était pas mal, donc c'est une case qui peut être intéressante, et on peut quand même saluer l'initiative de TF1 qui a pas l'habitude de nous passer des documentaires sérieux comme ça quoi. Bon, même si c'est en troisième partie de soirée et que c'est réservé aux gens qui travaillent pas le lendemain, qui se lèvent pas tôt le lendemain.
Là, non, c'est réservé au magnétoscope.
Ouais. Ah bon, ça existe encore ?
Bah, et moi j'en ai un scope numérique.
Allez, là le documentaire s'appelle Eva Braun dans l'intimité d'Hitler. C'est fait par des gens sérieux quand même, hein, Isabelle Clark et Daniel Costel. Hein, Daniel Costel, j'ai filmé la guerre en couleur, tout le bordel, hein, toute la série. Et c'est un documentaire fait à partir de bobines qui ont été retrouvées, 4h30 de bobines de films couleur noir et blanc filmés par Eva Braun et par ses proches durant entre 1937 et 1944, hein. Alors on voit Eva Braun qui fait son jogging, plein de petites choses comme ça de la vie quotidienne de Eva avec son concubin, un certain Adolf. Tout ça donc c'est sur TF1 mardi prochain à partir de 23h20. Les critiques sur le programme télé nous mettent en garde. Les images sont exceptionnelles, mais par contre le commentaire tombe un petit peu à plat et c'est un petit peu dommage. Il aurait été peut-être préférable qu'il y ait un historien qui s'occupe un petit peu des commentaires. Mais bon, ouais, on va quand même pas bouder notre plaisir. Enfin, plaisir, non, mais...
On verra,
ouais. Ok. Sinon, un autre documentaire, et là, qui concerne vraiment ce dont je parle pratiquement tout le temps, chaque semaine, c'est la guerre des télés sur France 5. En deux parties, jeudi et vendredi prochain, à 14h35, avec une date charnière... 91-92, à savoir la fin de la 5,
de la 5, oui,
mais également l'avènement des télés privées, l'émergence du satellite, l'émergence du câble, l'arrivée de la télé numérique et les gros fights entre les directeurs de chaînes et tout, ça se regarde avec plaisir.
La grande guerre des droits a commencé de toute façon après la chute de la 5 et au moment où TF1 commence à se dire je vais pas laisser à Canal l'exclusivité de la télé payante.
Voilà, c'est ça. Et à l'époque où justement Canal commençait à parler de télé numérique, hein, c'est-à-dire bon ok, hein, On va pouvoir faire plusieurs canaux et tout, ce qui a donné les déclinaisons de canal qu'on a actuellement. Un autre documentaire, alors ça c'est la guerre des télés, c'est sur France 5 jeudi et vendredi prochain l'après-midi à 14h35. Et sinon, un documentaire qui s'appelle Mort sur ordonnance sur 13e rue, mercredi prochain à 22h40, et qui nous rafraîchit un peu la mémoire. Le documentaire est très récent, une date de cette année, il est réalisé par Emmanuel Beignet, et ça nous remet un petit peu dans le bain de l'histoire du sang contaminé.
Docteur Garetta et tout ça. Hein.
Voilà, responsable mais pas coupable. Rappelez-vous. Et c'est donc diffusé à 22h40 mercredi prochain sur 13e rue, après le téléfilm qui parle du même sujet, qui avait été diffusé en 94, un téléfilm qui s'appelle Facteur 8 d'Alain Tasma avec Nicole Garcia et Roland Bertin.
Facteur 8, faut savoir que c'est ce que l'on appelle un produit qui permet à la coagulation principalement, et dont qui est relativement rare dans le sang, c'est un produit soluble, donc les hémophiles en ont besoin, et on a besoin de très grandes quantités de sang pour pouvoir en avoir suffisamment d'extrait. Et c'est là où il y a eu un dérapage, c'est quand l'État a autorisé en fait à aller chercher le sang des prisonniers, et c'est même devenu une exploitation commerciale, d'ailleurs sur le dos de ces personnes là
c'est aussi parce que le sang n'était pas chauffé en fait, il y avait pas de pasteurisation, il y avait transfusion, et puis il y avait prise de sang, et puis direct après on te le balançait quoi.
Voilà, donc déjà on mélangeait les sangs, on faisait pas les traitements différents, et en plus voilà, on chauffait pas, alors qu'on savait depuis 2-3 ans déjà, aux États-Unis c'était déjà appliqué, voilà. En chauffant le sang on pouvait atténuer le virus.
Enfin, ça vous sera nettement mieux expliqué dans ce documentaire, Mort sur ordonnance.
Merci du sport.
Avec plus de détails. Voilà. Du côté des séries, je vous dis, il n'y a rien de neuf, non, vraiment, il n'y a pas de nouveauté, il y a des rediffs, alors ça vaut le coup de, si vous ne l'avez jamais vu cette série, de reprendre la série depuis le début. C'est une série qui n'a pas duré tellement longtemps, 3 saisons, c'est La Belle et la Bête. C'était sorti sur CBS de 87 à 90. La relecture contemporaine du mythe de La Belle et la Bête, le fameux film de Cocteau de 46. 54 épisodes donc, avec Ron Perlman dans le rôle titre de la bête et Linda Hamilton dans le rôle de la belle.
Il y a une fin en fait à cette série ou non?
Non, ils ont imaginé une fin, ça se termine un petit peu en queue de poisson parce que ça devait pas s'arrêter, et puis c'est toujours la même chose quoi, la chaîne qui dit ça marche plus, laissez tomber quoi, vous arrêtez, basta. Donc les scénaristes vite fait ils te bricolent une espèce de fin comme ça, voilà, qui tient un petit peu debout, mais
surtout qu'aux États-Unis ils produisent 3 mois avant la diffusion, et donc des fois ils se retrouvent un peu de court
quoi. Voilà, donc outre Ron Perlman et Linda Hamilton dans les rôles titres, on retrouve Jay Akovorn et Armin Shimerman qu'on voit également dans le rôle de Quark dans Star Trek Space Nine. C'est vrai que Quark, si tu sais pas que c'est Armin Shimerman, laisse tomber tellement il est maquillé. Et en parlant de maquillage, justement quoi, le film vaut pour cela parce que les maquillages sont vraiment terrible, vachement bien foutu. Ron Perlman est méconnaissable quand tu vois la tronche de la bête et tout, tu sais pas que c'est Ron Perlman.
Il a une gueule un peu particulière au départ, mais c'est sûr.
Là tu le reconnais pas. Et pour cause, les maquillages sont faits par Rick Baker. Rick Baker, King Kong, Star Wars, les gens passent et des meilleurs. Ça va. C'est diffusé à partir de Sci-Fi, à partir de lundi et tous les jours de la semaine sur Sci-Fi à 16h40. Le pilote à partir de lundi de cette excellente série qui s'appelle La Belle et la Bête. Revisité à la manière contemporaine. Vite fait le pitch. Ça se passe dans une ville qu'on suppose être New York. Et en fait, c'est le combat entre ceux qui sont en bas, qui vivent dans les tunnels, dans les égouts, ceux qui sont un petit peu mutants, parce que là on parle de mutants à propos des bêtes, et ceux qui sont un petit peu difformes, et ceux qui habitent à la surface, qui sont les normaux entre guillemets. Et Linda Hamilton, qui joue le rôle d'une journaliste qui ne sait pas ce qui se passe au départ, va commencer à s'intéresser un petit peu, et bien sûr va tomber amoureuse. La Belle et la Bête, donc sur Sci-Fi tous les jours de lundi au vendredi à 16h40. Et vite fait des séries avec des guests connus, très connus, ce soir dans les rediffs de New York Unité Spéciale saison 4, ce soir sur TF1 à 23h10, le premier épisode Poussé au suicide, c'est avec Rob Estes. Rob Estes
de Palm Beach.
et dessous de Palm Beach. Et également la série sur la 6 qui est diffusée en ce moment le mercredi ou le jeudi, là, les Evidence, voilà, qui s'appelle Evidence. Et dans le deuxième épisode, alors là, spécial Big Boobs, trafic d'innocence avec Pam Grier. Et encore des Big Boobs, c'est sur Smallville ce soir.
Louez-soir Russ Meyer.
Smallville saison 6, donc un des inédits. Premier épisode, L'Homme d'Acier. Et le deuxième, Manipulation, avec la première apparition de la saison de Linda Carter, qui joue le rôle de la mère de Chloé. Qui est Linda Carter?
Wonder Woman.
Ah, bien sûr, allez, facile, facile. Allez, on termine, parce que là, on est quand même un petit peu à la bourre, hein. Bon, c'est pas ce que j'ai à dire.
Mais j'ai pas réagi, excusez-moi. Excusez-moi. Je suis désolé, Chantal, je suis désolé.
Ouais, c'est comme ça. Ouais, ça m'arrive aussi, t'en fais pas. On termine avec la semaine sur Paris Première, mais pas la première partie de soirée, la deuxième partie de soirée, hein. On parle quand je vous fais la semaine 2, c'est toujours la première partie de soirée, hein, savoir. Ouais. Là, deuxième partie de soirée, les gars. Alors il y a de tout, hein. Il y a vraiment de tout. Ça commence ce soir à 23h25 avec le concert de Yannick Noah à Bercy en 2004. Hein, quand vous êtes là, ça s'appelle. Demain sur Paris Première à 22h45, Battle Royale de Kinji Fukasaku.
Ah oui,
avec Takeshi Kitano. Lundi à 22h35, Crash de Cronenberg, tiré du bouquin de J.G. Ballard, L'Empire du Soleil.
Je sens que je vais m'abonner dès maintenant, là.
Mardi, 22h30, la dernière de 93 Faubourg Saint-Honoré.
Je vais m'abonner, alors, pour s'il termine.
Avec Ardisson, vu que c'est Carl Zero qui reprend la suite. Pas dans les mêmes locaux, hein, mais il va y avoir une suite soi-disant, quoi. Et là, c'est cette dernière émission de 93 Faubourg Saint-Honoré.
Non, on dit 9-3, quoi.
Ouais,
9-3, il est jeune.
Dîner côté cuisine avec tu vois, c'est moi ce que j'ai toujours un petit peu reproché à cette émission, hein, c'est pour ça que j'ai pratiquement jamais regardé en entier, hein. Tu zappes, t'as pigé vite fait, quoi. C'est j'invite mes potes et tout, c'est toujours le même cercle, tu vois, hein. C'est très parisien et téléviso téléfil je travaille à la télé, donc il y a pas de problème avec trois Laurent, Ruquier, Baffy et Boyer. Guillaume Durand.
Tiens, il y avait pas de Laurent Meschko.
Ouais, Faustine Bollert. Je sais pas si vous connaissez. Si. Vous regardez pas Sébastien. C'est la brune là qui est assez bien roulée, mais enfin qui a une dentition à refaire. Que Sébastien a repiqué à Morandini, quoi. C'était la nana qui donnait la réplique à Morandini dans sa précédente émission qui s'appelait Match TV, hein, sur Match TV, quoi, et qui l'a suivi sur Direct 8, hein, dans l'émission quotidienne de Morandini sur la télévision. Faustine Bollert, donc Julia Miguenes. Ils ont oublié le Johnson derrière, c'est pas grave. Patrick Carmouze, Geneviève de Fontenay et Laurence Boccolini. Bon, bah voilà, hein, vous avez compris.
Ouais,
hein.
Bon.
Mercredi prochain, alors là c'est encore pire, à 22h40 sur Paris Première, délicieusement Roumanoff.
Oh non.
Un pot-pourri de son spectacle délicieusement Roumanoff, sorti en 2005. Jeudi par contre, ça je vous en avais parlé la semaine dernière, hein, c'est série anglaise en immersion, donc In Deep, hein, cette version un petit peu Un flic dans la mafia sauce anglaise actuelle. Et vendredi, comme tous les vendredis, hein, c'est Paris Dernière à partir de 22h45. On aime, on n'aime pas, mais enfin bon, ça vaut le coup de regarder de temps en temps comme ça, quoi. Et c'est suivi justement, et c'est là que c'est le plus intéressant, à 23h50 vendredi prochain sur Paris Première par Nuit Nippon, Nuit Friponne. Et encore du hentai dans ta gueule avec G-Taste.
Non, tu vas nous mettre la royale à dos.
Discipline, poupée fragile et front innocent. Et tout ça, c'est -16. Tout ça, sans Paris Dernière, c'est égal en -16, hein, donc de toute façon, les enfants sont déjà couchés, sont déjà au lit depuis pas mal de temps.
D'accord.
Merci.
Donc Hentai, je rappelle, hein, c'est un dessin animé japonais avec des filles qui se font ligoter. Très serré.
Le chevreau, il peut pas s'échapper. Hein, c'est le cul, quoi. Hein, c'est-à-dire, fortement érotique.
Tu vois des seins, les fesses.
Oui, merci. Il est 13h21 et 30 secondes, on va se rallumer.
Et tu vois les flous aussi, quoi.
Oui, ou pixelisés.
Ouais.
Très rapidement, un agenda express pour vous signaler donc que le Satiricon vient de sortir un numéro intermédiaire. C'est le numéro 42.
Un euro celui-là.
42. Donc c'est un numéro qui est, puisque le numéro d'été, numéro 43 sortira dans deux semaines, c'est à propos des législatives. N'oubliez pas de voter demain, s'il vous plaît. Ce que vous mettrez dans l'enveloppe ne me regarde pas, mais au moins allez voter. C'est quand même ce qui est largement plus intelligent. Avec donc la participation de dessinateurs relativement nombreux, mais serrés, puisqu'il y a que 4 pages. Jeudi prochain à 21h donc à l'Utopia sera présent Richard Stallman, initiateur du mouvement du logiciel libre qui a donné entre autres Linux, OpenOffice et Firefox. Richard Stallman qui est un barbu, qui est anglais mais qui parle couramment français, donc il fera la conférence en français. Il parle aussi indonésien à ce qui paraît, hein, si vous voulez essayer de parler avec lui. Venez avec vos Linux piratés à lui faire dédicacer avec vos CD vierges. C'est à 21h, l'entrée est libre, et c'est à l'Utopia, donc débat, voilà, si ça intéresse des gens, bien sûr. C'était le supplément week-end, avant cela, ben oui, j'y viens, Thomas, peux-tu faire un résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, je te prie.
Le procès-verbal, tout d'abord, bravo à Laurent qui a gagné les 2 places pour le cycle Made in London. Nous t'attendons pour venir chercher les places d'ailleurs. Il y a eu de la tuerie BDS, il y a eu un... des fausses bandes annonces du spécial Grindhouse, du Made in London, donc à la Cinémathèque, un CD qui manquait car il était oublié dans le lecteur de Du Sport chez lui, et une rubrique gros sein en guest star.
Nom d'un député de la majorité présidentielle, nom de 4 prétendants à la députation de la majorité présidentielle dans mon canton. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, vous pouvez réécouter les intégralités du supplément week-end en allant sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net ou en cherchant supplément week-end MP3 ou supplément week-end FMR. Et vous tombez dessus, vous pouvez réécouter, vous pouvez participer aux chroniques en rajoutant votre grain de sel. N'hésitez pas, on n'attend que ça et on répond. Vous pouvez aussi
nous pourrir la gueule aussi en disant votre émission elle est à chier, voilà.
Voilà, et d'ailleurs bientôt Du Sport à son blog, Thomas, lui c'est déjà en cours. Et on va refaire complètement le site de l'émission là-dessus, comme ça vous l'aurez un peu mieux. La suite des programmes sur Radio FMR 89.1 MHz, 15h le potager, 17h Big Bang, 18h vie d'ordure, 19h Happy Hour, 20h Last Zero Experience, 21h30 9 Love, 2 Step. Et tout de suite, ça c'est du sport. Nous sommes en direct jusqu'à 5h du matin sur la poubelle des radios. Ciao, à plus.
Salut, ciao.